Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Magnétisme, hypnose, ce sont les expériences surnaturelles du marquis de Puységur que Franck Ferrand nous propose de revivre pour finir la semaine sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Carole, bonjour à tous. Nous allons en effet étudier de près le cas de ce disciple du célèbre Mesmer, l'homme du magnétisme animal, pour y voir plus clair sur ces pratiques très en vogue sous le règne de Louis XVI, juste à la veille de la Révolution. J'ai convié à nous rejoindre l'historienne Viviane Perret, que connaissent bien nos auditeurs, et l'illusionniste Antoine Leduc.
Après quoi, Lorena Martin nous parlera d'un concert sous hypnose.
Oui, un concert sous hypnose.
Étonnant.
Oui. Ah oui, nous ne reculons devant rien aujourd'hui. J'espère au moins que nous n'allons pas endormir nos auditeurs, quand même, chère Carole. Si tel devait être le cas, Nicolas Carreau sera de toute façon là pour les réveiller juste avant 15h, avec le coup de cœur de la semaine. En 1784, dans ses mémoires pour servir à l'histoire et à l'établissement du magnétisme animal, Armand-Marc Jacques Chastenay de Puységur, voilà tout son nom, revient sur l'influence exercée par le docteur Franz Anton Mesmer, dont il a été le disciple. « Lorsque le magnétisme animal fut apporté et annoncé en France par Mesmer, dit-il, mon premier mouvement néanmoins, quoique assurément ma raison ne pût s'en accommoder, fut d'en nier l'existence. » Ma prévention était même alors si forte contre la réalité de cette découverte que malgré que je fusse devenu un sujet d'expérience très précieux pour Mesmer, par tous les soubresauts et les trépignements involontaires que me causait autour de son baquet sa seule approche, son seul regard, eut seulement la présentation à une grande distance de sa main vers moi, je m'obstinais à n'attribuer qu'à mon imagination frappée tous les effets qu'il prétendait me faire éprouver. Mesmer, voilà, nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure, Mesmer était d'origine allemande, il s'est installé à Paris et il a suscité là la plus vive curiosité. Il prétendait guérir les maladies les plus diverses grâce à un fluide mystérieux répandu dans tout l'univers et capable de déclencher chez les patients qui se pressaient chez lui des crises convulsives, crises jugées bénéfiques, c'est tout l'intérêt de l'affaire. Vous imaginez un peu la scène, des malades faisant la chaîne autour d'un baquet rempli d'eau jusqu'à mi-hauteur, dont le fond est recouvert de bouteilles de verre, et émergent de là des baguettes de fer censées transmettre le fameux fluide. Parmi les adeptes du mesmérisme figurent toutes sortes de personnalités en vue, des banquiers, des juristes, Lafayette également, qui écrit à George Washington, le futur premier président des États-Unis d'Amérique, « Un docteur allemand nommé Mesmer, ayant fait la plus grande découverte sur le magnétisme animal, a formé des élèves, parmi lesquels votre humble serviteur est appelé l'un des plus enthousiastes. » Mais Puységur, de son côté, n'est pas seulement un adepte de Mesmer, il est bien plus que ça, il va aller plus loin dans les recherches sur ce sujet et il va développer surtout ses propres convictions. Et c'est une première différence avec Mesmer, Puységur n'est pas médecin, il ne prétend pas l'être, il est militaire, c'est même un militaire de haut grade, issu d'une très vieille famille de la noblesse française. Il a marché dans les pas de son grand-père, maréchal de France, de son père, lieutenant général. Il a été aspirant à l'école d'artillerie de La Fère, dans ce qui deviendra le département de l'Aisne. Puységur s'est distingué lors du siège de Gibraltar, en pleine guerre d'indépendance américaine, et au cours duquel une alliance franco-espagnole tente de reprendre Gibraltar aux Britanniques. Puységur, lorsqu'il a 27 ans, entre dans le corps royal d'artillerie avec le grade de colonel. Alors il partage son temps entre son régiment, le château familial de Buzancy, près de Soissons, et puis Paris. C'est au tout début des années 1780 qu'il commence donc à participer aux fameuses séances de Mesmer. Et on peut dire qu'il est un des premiers à faire partie de la Loge de l'Harmonie, qui va devenir la Société de l'Harmonie universelle. Et un soir de mai 1784, alors qu'il est cette fois sur ses terres de Buzancy, il se repose dans son château familial, le jeune officier trouve la fille de son régisseur complètement en pleurs. Elle souffre depuis plusieurs jours d'un atroce mal de dents. Et le marquis de Puységur, j'allais dire tout naturellement, se met à passer à plusieurs reprises ses mains devant la patiente. Il faut vous dire qu'il a l'expérience de ces choses-là maintenant. Il a l'intention de la soulager. Il lui frotte légèrement les paupières et comme ça, en quelques minutes, à peine 10 minutes, la douleur disparaît. Et évidemment, Le bouche à oreille fait son effet, tout le monde est bientôt au courant de cette guérison miraculeuse. Certains villageois vont accourir pour être à leur tour soignés par Puy Ségur, qui procède à quelques passes, à des attouchements, des frottements à la hauteur de la tête et du plexus solaire. Il s'aide parfois d'une baguette de verre ou de fer. Voilà ce qu'il écrira dans ses mémoires à propos de mai 1784. Ces faibles succès me firent essayer d'être utile à un paysan de 23 ans, alité depuis 4 jours par l'effet d'une fluxion de poitrine. J'allais donc le voir, c'était mardi passé, 4 de ce mois à 8 heures du soir. La fièvre venait de s'affaiblir, après l'avoir fait lever, je le magnétisais. Quelle fut ma surprise de voir au bout d'un demi-quart d'heure cet homme s'endormir paisiblement dans mes bras, sans convulsion ni douleur. Je poussais la crise, ce qui lui occasionna des vertiges. Il parlait, s'occupait tout haut de ses affaires. Lorsque je jugeais ses idées de voir l'affecter d'une manière désagréable, je les arrêtais et cherchais à lui en inspirer de plus gais. Vous voyez qu'on va quand même assez loin là, dans le traitement, si je puis dire. Des centaines de personnes vont venir consulter Puy Ségur, parmi lesquelles une femme qui n'arrive pas à se remettre de couches difficiles, un étudiant qui souffre de surdité, une surdité croissante, etc. Ses deux frères sont également magnétiseurs, le comte Maxime de Puységur, qui est maître de camp en second du régiment du Languedoc, et qui guérit par les magnétismes, les entorses que ces hommes se font, et puis l'autre, Antoine Hyacinthe Anne de Puységur, qui commande de son côté une frégate et qui va utiliser les mêmes moyens pour préserver son équipage des maladies lorsqu'ils sont en haute mer. Bientôt, le nôtre de Puységur va magnétiser un arbre, comme Mesmer l'avait fait avant lui, un grand et vieil orme qui se trouve au milieu de la place du village de Buzancy. Ce vieil orme devient, à partir de ce moment-là, un véritable centre d'attraction. Les malades, assis sur des bancs circulaires, touchent les cordes qui s'enroulent autour du vieux tronc noueux, et ils se tiennent les pouces, ils font une chaîne. C'est une procession perpétuelle dans le pays, écrit Puységur. J'y passe 2 heures tous les matins, mon arbre est le meilleur baquet possible. Baquet, c'était donc le centre de magnétisme qu'utilisait Mesmer. Il n'y a pas une feuille qui ne communique de la santé, chacun y éprouve plus ou moins de bons effets. Le marquis de Puységur est absolument convaincu que ses expériences peuvent, et c'est lui qui le dit, peuvent servir à la médecine et au soulagement de l'humanité. Et pour cela, il a bien l'intention de continuer à travailler, à aller plus loin dans cette voie un peu étrange. Il veut découvrir d'autres phénomènes.
Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1.
Franck, vous nous racontez la vie du marquis de Puységur. Après avoir guéri ses premiers patients, il commence à devenir un célèbre magnétiseur. Mais que devient le docteur Mesmer, dont Puységur a été l'un des plus fidèles adeptes?
Alors lui ne fait pas l'unanimité, malgré son grand succès. En 1784, le roi en personne, Louis XVI, va nommer 2 commissions pour étudier la doctrine de Mesmer, l'une à l'Académie des sciences et l'autre à la Société royale de médecine. Et dans ces commissions, on voit siéger des personnalités éminentes. L'ambassadeur des États-Unis, Benjamin Franklin, et là, on s'en douterait presque, le chimiste Lavoisier, le botaniste Jussieu, etc. Leur rapport condamne purement et simplement le mesmérisme. Rien ne prouve qu'il soit efficace et il se peut même qu'il soit dangereux. Voilà la conclusion des commissions. Et quelques mois plus tard, Mesmer va quitter la France. Il y reviendra encore un peu plus tard. Mais entre-temps, bon nombre de ses adeptes ont décidé de mettre en pratique ce qu'ils ont déjà appris chez lui et ce qu'ils ont vécu à ses côtés. Puységur, bien sûr, en fait partie et il est certain qu'il est le plus doué de tous les disciples. À la date du 18 avril 1785, Bachaumont écrit dans ses fameux mémoires « Le magnétisme animal qu'on croyait proscrit, anéanti par le ridicule, devient plus à la mode que jamais. Ses merveilles s'accroissent et se multiplient. Le docteur Mesmer se repose, dit-on, sur ses lauriers et jouit de l'argent immense qu'il a ramassé. Il ne fait plus que présider. On parle d'un marquis de Puységur qu'il convient être plus habile que lui. Celui-ci endort les malades, il les jette dans un somnambulisme parfait, les fait obéir à la baguette et à ses gesticulations, en sorte que leurs volontés correspondent absolument aux siennes. Depuis les convulsions, on n'avait point vu d'extravagance pareille, c'est le même délire et un peu plus grand, puisqu'au moins les convulsionnaires attribuaient leur prétendu prodige à une force surnaturelle, et que les mesméristes d'aujourd'hui se vantent de tout tirer de la nature. » Il faut dire que Puységur a du temps. Hein. À l'époque, on ne peut pas dire qu'un colonel, surtout là, en ce moment, il n'y a pas de guerre. Il n'est pas tenu d'être présent dans son régiment tout le temps. Il est là, il y est à peu près 4 mois par an. Il est persuadé, ce Puységur, de l'existence d'un fluide universel apparenté à l'électricité animale qui vivifie toute la nature, qui tente à se porter là où notre volonté la dirige. C'est très important parce que, évidemment, à cette époque-là, on est en pleine expansion de toutes les sciences. Et ce qui est en train de se manifester là est considéré comme un nouveau domaine du savoir. Il faut bien avoir ça à l'esprit. La maxime de Puységur, c'est « croyez et veuillez ». Puységur note que lorsque le patient est plongé dans un sommeil artificiel, ce qui lui laisse l'usage de la parole, la personnalité du somnambule change. Par exemple, lorsqu'un paysan fait preuve d'une lucidité étonnante, Puységur note qu'il devient un être que je ne sais nommer. Il note également l'insensibilité totale de certains patients qui se plient avec docilité à tous les ordres du magnétiseur, ce qui peut évidemment devenir un peu dangereux à terme. L'une des patientes en question va rester pendant 1 heure sans remuer le bras. Et quand on enfonce des épingles dans son bras, eh bien, elle ne sent rien et aucune goutte de sang n'apparaît. On verra plus tard, au XIXe siècle, toutes ces expériences-là développées, rationalisées, etc. On n'y est pas encore tout à fait. Puységur essaie aussi de comprendre quelles pourraient être les limites de sa méthode. Et de ce point de vue, il a une démarche qui est scientifique. Par exemple, ayant forcé par plaisanterie une jeune femme qu'il avait plongée dans le sommeil magnétique à lui donner un coup de chasse-mouche, elle avait une sorte d'éventail à la main, si vous voulez, il va lui demander s'il aurait eu sur elle le pouvoir de lui faire faire une action répréhensible, comme par exemple se déshabiller entièrement. Voilà la réponse de la patiente, si je puis dire. « Oh non, pas monsieur, il n'en serait pas de même. Ce que je viens de faire ne me paraissait pas bien, j'y ai résisté longtemps. Mais comme c'était un badinage, à la fin j'ai cédé puisque vous le vouliez absolument. Mais jamais vous ne pourrez me forcer à quitter mes derniers habillements, mes souliers, mon bonnet, tant qu'il vous plaira. Mais passé cela, vous n'obtiendrez rien. » Pour Puységur, les origines des maladies sont absolument essentielles. Par exemple, un fermier plongé dans un sommeil magnétique évoque un acte de donation caché qui était l'objet de ses problèmes. Il a fini par le dire. Et vous voyez que là, le travail de Puységur s'écarte assez notablement de ce que faisait Mesmer. Puységur déclare n'être qu'un vecteur pour les malades qui seraient leur propre médecin, si vous voulez, alors que Mesmer lui prétendait apporter de quoi soigner par une action exclusivement physiologique. Et la source de l'action en question, c'était le magnétiseur pour Mesmer. Les expériences de Puységur, comme celle de Mesmer, n'en suscitent pas moins un scepticisme croissant. Il a d'ailleurs fait déposer chez un notaire de Soissons les manuscrits sur lesquels figurent des écrits sur les cures. Il essaie de se protéger. À Paris, dans les salons de ses amis, certains parlent maintenant ouvertement de supercherie. Le marquis de Puységur écrit qu'il a, je cite, « le sentiment d'être un joueur de gobelet maladroit qui a manqué ses tours ». Et vous voyez que l'accueil est donc très mitigé. Malgré cela, il va retourner régulièrement à Paris et notamment il fait partie des habitués du salon de la Duchesse de Bourbon, qui est un salon très important avant la Révolution. Puységur est nommé colonel du régiment d'artillerie de Strasbourg. Vous voyez que ça ne le gêne pas dans sa carrière. Néanmoins, cette affaire, il part donc pour l'Alsace et à Strasbourg, il est bien accueilli, notamment au sein de la franc-maçonnerie. Le magnétisme est littéralement intégré à un certain nombre de rites maçonniques. Au sein de la Société harmonique des amis réunis, on va voir Puységur former des magnétiseurs, créer un certain nombre de centres de traitement, etc. Et vous aurez bientôt des paysannes de la Forêt Noire, des canonniers alsaciens, des bombardiers qui viennent voir le marquis. Lui est un peu échaudé par les railleries dont il a pu faire les frais à Paris et on peut dire que les expériences qu'il accepte de mener encore, il ne les mène qu'en petit comité. Il n'a plus du tout l'intention de se donner en spectacle. Puységur va néanmoins continuer à pousser ses expériences et il constate que ces somnambules non seulement peuvent se révéler insensibles, non seulement vont ressortir des choses qu'ils n'auraient pas dites lorsque leur conscience est éveillée, mais ces somnambules pourraient même disposer d'un don de voyance.
Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1.
Et nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, plongé au cœur de l'histoire des débuts du magnétisme. Le marquis de Puységur est maintenant en Alsace et va plus loin dans ses expériences, Franck.
Oui, il continue en tout cas. Il veut essayer de comprendre quelles sont les limites du phénomène. Et la voyance l'attire beaucoup, puisqu'il semblerait que lorsqu'ils sont en état d'hypnose, ces patients sont capables de voir des choses, n'est-ce pas ? Et c'est à Paris. C'est à Paris, chez la duchesse de Bourbon, toujours. On est là au début de l'année 1786, période très troublée. C'est intéressant de voir qu'on est dans un moment de, en quelque sorte, de bouillonnement. Eh bien, à Paris, une des somnambules de Puységur est mise en présence d'un jeune secrétaire de l'ambassade d'Espagne et on lui demande de voir l'avenir de ce jeune homme. Voilà ce qu'elle déclare. « Vous pensez à une femme que je vois bien loin d'ici ? Elle est dans une chambre peinte et ornée à jour. Elle porte un costume que je n'ai jamais vu à personne, oui. De larges pantalons, les jambes nues avec des mules brodées en or, une robe de gaze, un long voile sur un bonnet très haut en argent découpé, qui est fait comme la coiffe des femmes du pays de Caux. Tout cela est bien riche et cette femme est bien belle. » Et le secrétaire de l'ambassade d'Espagne, complètement stupéfait, est bien obligé de reconnaître qu'il s'était pris à Ceuta d'une jeune femme juive qui lui avait sauvé la vie et qu'il croyait avoir converti au christianisme d'ailleurs. La somnambule voit également que le secrétaire d'ambassade en question a écrit à la jeune femme. « Lisez cette lettre, je le veux !» interrompt le marquis de Puységur qui charge la somnambule de fluide. Il faut imaginer l'ambiance de tout ça. La somnambule va poursuivre. Somnambule, c'est le nom qu'on donne. Hein. On pourrait plutôt dire la personne sous hypnose, oui, en l'occurrence, vous comprenez bien. Elle poursuit son monologue et elle met fin aux illusions du jeune homme. Et là, cette femme n'a aucune intention de se laisser enlever par lui. C'est ce qu'il lui proposait dans la lettre en question. En fait, sous l'influence d'un autre homme, elle a plutôt l'intention de l'attirer à Ceuta et de le faire tomber dans un guet-apens. Ben voilà, une séance qui va se révéler utile. Une autre prophétie raconte qu'alors qu'elle est interrogée sur l'avenir de la France, une jeune paysanne de la Forêt Noire se cache la tête dans les mains et crie « Oh mon Dieu, que de sang, c'est affreux !» On est en 1786, est-ce que j'ai besoin d'insister ? Alors, lorsque la Révolution justement éclate, le marquis de Puységur est nommé commandant de l'école de l'affaire, il est fait maréchal de camp, il va démissionner comme beaucoup en 1792, mais contrairement à ses deux frères, lui ne part pas en émigration, il reste dans le royaume qui est en train de devenir une république, il va donner asile à un certain nombre de royalistes persécutés là, dans son château de Buzancy, ce qui lui vaut d'être incarcéré à plusieurs reprises sous la Terreur. Et après le 18 Brumaire, il est nommé maire de Soissons, fonction dont il sera démis au moment où Napoléon renomme tous les maires, vous savez, en 1805. Le marquis de Puységur, pour autant, n'a pas abandonné ses activités autour du magnétisme. Cette affaire le suit, va le poursuivre toute sa vie. Il écrit des ouvrages sur ses expériences, sur ses théories. Il réédite en 1809 ses « Mémoires pour servir à l'histoire et à l'établissement du magnétisme animal » dont je vous ai lu un petit extrait tout à l'heure. Et on raconte que Napoléon en personne, Napoléon qui était pour le moins sceptique à propos du magnétisme, aurait mis Puységur au défi d'obtenir, lors d'une séance, une audience publique, d'obtenir que sa somnambule prédise les progrès que les hommes auraient faits dans les 200 ans à venir. Le marquis ne va pas du tout relever le défi de l'empereur. En mai 1825, donc 15 ans plus tard, lors du sacre de Charles X, pour rappeler au nouveau souverain les titres que sa maison avait à la gratitude royale, Puységur va avoir l'idée, un peu fantasque, il faut bien le dire, d'aller camper à Reims sous une tente qui avait servi à son père à la veille de la bataille de Fontenoy. Fontenoy, c'était en 1745, donc 80 ans plus tôt. Et il va donc passer plusieurs nuits sous cette tente. Il attrape froid à Reims, vous imaginez, dans le froid de la Champagne. Sa santé se détériore et quelques mois plus tard, il va mourir à 74 ans. Une fin quand même originale pour un homme qui ne l'était pas moins.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1.